Maintenant, un bon podcast.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'un éditeur et d'un auteur qui se sont mis ensemble pour créer un jeu dont on a déjà entendu parler dans les mois qui sont passés, puisqu'on parle de Scrapbook. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Axel Desplanques et de Moreno Raganien. Bonjour, messieurs.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, Axel Desplanques, vous êtes responsable de la société d'édition XQB5, donc un nom assez exotique dont on va certainement reparler plus tard. Et Moreno Raganien, vous êtes en fait l'auteur du jeu Scrapbook, c'est bien ça ?
C'est bien ça, oui.
Alors, Scrapbook, on va le décrire en 10 secondes et puis on va passer dans l'historique de ce jeu-là, surtout de revenir sur sa jeunesse qui me semble vraiment très intéressante. Scrapbook, on entend Scra, et ça fait penser à Scrabble, mais vous allez certainement me corriger en disant que c'est pas un jeu de Scrabble. Et Poc, c'est un jeu de cartes qui ressemble assez au poker. Ce sont deux mondes qui se rejoignent, monsieur Raganien ?
Oui, ce sont deux mondes qui se rejoignent, dans la mesure où c'est avant tout un jeu de lettres, mais avec des règles qui se rapprochent de celles du poker, qui se rapprochent beaucoup de celles du poker. Alors, par contre, c'est assez éloigné du Scrabble dans la mesure où ce ne sont pas des lettres avec une valorisation de points. Ce sont des lettres qui combinent, bien entendu, des lettres et les enseignes. Voilà, c'est des cartes mixtes.
D'accord. Et donc, le matériel, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes où on retrouve les composants du poker, c'est-à-dire on a les quatre familles, donc pique, cœur, carreau et trèfle, mais sur les cartes, on n'a pas des nombres de carreaux, trèfles, etc., ni des figures, mais ce sont des lettres.
Selon une répartition, en fait, qui dépend de la langue dans laquelle est utilisé le jeu.
Oui, bien sûr. Mais donc, en 10 secondes, c'est quoi le but du jeu, finalement ? C'est de gagner au poker ou c'est de faire des mots ?
Alors, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'avoir le côté culturel d'un jeu de lettres, mais d'avoir également de mixer ça avec un côté adrénaline qui est de miser.
On va revenir sur le mécanisme un petit peu plus tard, mais ce qui m'a étonné dans votre historique, c'est le pourquoi du jeu. Parce que quand on voit arriver le jeu sur les étals, on se dit, ils ont réuni deux mondes, on a l'impression qu'ils ont fait l'essai, et en fait, en discutant avec vous, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça. Je vais revenir juste sur la genèse, et qui est très très proche du monde du jeu de société à l'heure actuelle, c'est que vous avez voulu vraiment réunir deux mondes, mais pas seulement deux jeux, mais vous aviez des activités familiales qui étaient que vous aviez envie de réunir. Vous pourriez revenir sur cette histoire-là ?
Oui, tout à fait. C'est mon épouse qui est fan de jeux de lettres et qui, depuis des années, organise à la maison, donc chez moi, chez leur copine également, des soirées complètes où elle joue au Scrabble ou à d'autres jeux de lettres. Alors nous, les hommes, petit à petit, on s'est mis au poker, mais il y avait vraiment une séparation bien nette entre les femmes et les hommes. Les hommes jouaient au poker, les femmes continuaient à jouer aux jeux de lettres. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est un peu bête tout ça, pourquoi ne pas réunir les deux jeux de telle façon à ce que les femmes y retrouvent le côté un peu intellectuel, le côté culturel du jeu de lettres, et que nous les hommes, on retrouve un peu le côté adrénaline, le fait de miser, de bluffer, voilà. Donc c'est le jeu est venu un peu de là, c'était vraiment de réunir les hommes et leurs épouses autour d'une même table.
D'accord. Et donc Monsieur Desplanques et Monsieur Raganien, donc vous connaissiez déjà à ce moment-là, vous êtes parti du même cercle d'amis.
Non, alors Desplanques, en fait, on était des collègues du point de vue professionnel, voilà, donc on se connaissait, mais essentiellement professionnellement.
D'accord, ok. Et donc vous, Monsieur Raganien, de votre côté, vous avez commencé à présenter ça à votre femme et à ses amis, quelle a été leur réaction ?
On a passé beaucoup de temps, ils ont trouvé ça extrêmement intéressant, hein, donc on a commencé à faire des prototypes, à se réunir le soir, où tout le monde a des discussions animées, puis finalement on est arrivé à un consensus, et la réaction est extrêmement positive, puisque maintenant, véritablement, on joue très régulièrement ensemble au Scrapbook. Bon, il est vrai qu'on se fait toujours battre par nos épouses, parce qu'elles sont beaucoup fortes dans ce jeu-là, mais on continue malgré tout de jouer.
C'est ça, c'était ma question suivante, c'est finalement qui gagne le plus au Scrapbook.
C'est malheureusement les femmes.
Alors vous faisiez justement un parallèle avec le poker et le jeu de lettres en disant, tiens, le jeu de lettres est plus culturel. Quand vous dites plus culturel, c'est-à-dire que vous considérez que le poker n'était pas un jeu culturel?
Non, le poker, du moins vu du côté féminin, le poker est vraiment vu comme un jeu un peu bateau, hein, puisque c'est essentiellement des statistiques enfin, nos épouses, en ce qui concerne la communauté des gens qui avaient l'habitude de jouer au jeu de lettres, ben, il n'était pas question pour eux, le poker ne les attirait absolument pas, hein.
Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'un jeu comme le Scrapoke va contenter des joueurs de poker aguerris de la même manière que des joueurs, on va dire, de Scrabble pour faire le parallèle et en le
Ah,
remettant.
tout à fait.
Oui.
Oui, absolument. C'est vraiment le cas. D'autant plus qu'il y a un côté, je dirais, plus chat, même autour d'une table. Donc les gens discutent beaucoup plus. Et même les femmes sont contentes de temps en temps de bluffer ou de faire semblant. Donc je dirais actuellement, dans l'expérience que j'ai, et on se réunit régulièrement une dizaine de personnes, véritable, les femmes, je vais tout à fait franc, les femmes préfèrent à jouer au Scrapoke maintenant qu'au Scrabble, par exemple.
Ah, donc ça, votre pari est réussi à ce moment-là. Bien, alors là, pour rester dans la chronologie, à ce stade-ci du développement du jeu, on est quand en fait?
Ben, au stade, on a donc l'idée est venue à débuter courant 2008, oui, on est à peu près au début 2009.
C'est ça. Et donc le jeu commence à fonctionner. De bouche à oreille entre amis, j'imagine que vous y rejouez, vous le présentez de groupe en groupe, et puis à un moment, vous vous posez la question sur comment est-ce que je pourrais le commercialiser. Déjà, est-ce que c'était le but de le commercialiser au départ?
Alors au départ, il n'y avait pas de but de commercialisation, mais donc c'était vraiment de se faire quelque chose entre amis. Il n'y avait pas véritablement, chacun avait son job. Voilà, je voulais pas, il n'y avait aucune envie de commercialiser véritablement le jeu. On a commencé à y réfléchir à partir du moment où on s'est dit, ça marche. C'est vraiment les gens adhèrent véritablement à ce jeu. Pourquoi ne pas en faire un jeu en ligne? Et à partir de ce moment-là, on a vraiment décidé, surtout pour avoir une enveloppe d'investissement, hein, puisque on partait sur d'autres dimensions en ce qui concernait du point de vue financier. À partir de ce moment-là, on a créé une société. Alors, on a créé une société, une SARL à l'époque, tout simplement parce que le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas.
D'accord. Et c'est là que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, on va dire, avec Axel Desplanques.
Absolument,
D'accord.
absolument. J'en ai parlé à Axel Desplanques puisque son épouse aime bien jouer aussi. Je lui ai envoyé un prototype. Il a trouvé ça super sympa et il s'est dit, ben moi j'y crois et on va fonder quelque chose ensemble. Voilà.
Oui, tout à fait.
Et moi, ce qui m'a séduit beaucoup, c'est l'aspect intergénération qu'on peut avoir avec le jeu. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien jouer avec des enfants de 17, quoi, de jeunes adolescents à des grands-parents, etc. Et tout ça autour d'une grande tablée. Donc j'ai trouvé cet aspect convivialité autour du jeu. J'avais pas retrouvé ça depuis longtemps dans un jeu. Et ça m'a complètement séduit, ce côté à la fois stimulation intellectuelle et à la fois cette côté convivial où on est allez, une tablée de 10 et on joue tous ensemble et on peut jouer une petite partie ou une partie longue et toujours avec beaucoup de plaisir.
Oui, tout à fait. Mais alors, justement, vous disiez vous n'avez pas rencontré des jeux avant qui permettaient de faire ça. Ça veut dire qu'à la base, vous êtes joueur, vous connaissez le monde du jeu de société avant de se lancer là-dedans?
J'ai tout ce qui est jeu, moi j'adore les jeux, que ce soit sur du jeu physique, sur du jeu internet. Il y a un vrai intérêt sur des jeux, que ce soit plutôt des jeux, même en bon père, je veux dire des jeux de bon père de famille, quoi.
Du genre?
Du genre Uno, du genre Scrabble, du genre vraiment les jeux traditionnels, Milborn, jeux de cette famille, qui permettent de jouer avec l'ensemble de la famille, quoi. Trivial Pursuit, sur ces jeux classiques, quoi.
Oui, tout à fait. Et donc, là, vous créez une société de toutes pièces pour développer le jeu, mais alors selon deux axes. Donc, il y a le jeu réel avec les vraies cartes qu'on a en main, et puis il y a le jeu en ligne. Ça, c'est vraiment une volonté dès le début.
Oui, tout à fait. Oui. C'était pas une volonté dès le début, dans la mesure où quand on a commencé à créer le jeu de cartes, c'était essentiellement pour jouer entre nous. Et puis en fait, je crois je crois me rappeler qu'en fait, quelqu'un lors d'une partie a dû me dire, bah écoute, pourquoi tu fais pas un jeu en ligne? Parce que ça s'y adapterait totalement. Voilà. Je pense que c'est venu comme ça. Et puis après, avec la réflexion, avec le fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sites de poker qui se montaient, je me suis dit, finalement, c'est pas idiot. Et voilà. Mais tout à fait au départ, non, l'idée, c'était de rester au jeu de cartes. C'est venu lorsque le jeu était opérationnel et que tout le monde y jouait.
Oui, tout à fait. Mais donc, afin d'affiner le jeu, vous avez quand même fait une pré-série gratuite. Je veux dire, c'était quoi en 2010?
Alors la pré-série, je l'ai lancée, je crois, tout de suite en, je crois, il me semble, c'était fin 2009.
Oui, c'est ça.
Ou fin, pardon, fin 2008. Je l'ai fait très très rapidement, en fait, la pré-série, puisque j'ai un ami qui est imprimeur. On a mis au point les cartes, on a écrit les règles du jeu. J'ai fait une première série de 500, et puis après, en 2009, je refais une deuxième série de 500. Voilà.
Et quel était l'intérêt de faire cette pré-série pour vous?
Ben, déjà, c'était de voir un peu comment les gens réagissaient. Et puis d'affiner les règles parce que on est en cercle clos, entre amis, on prend des habitudes et j'étais pas certain que tout était nickel au niveau des règles.
Oui, tout à fait.
Je l'ai fait comme ça et puis franchement j'avais envie de faire connaître le jeu, hein, c'était également ce but-là.
Oui, tout à fait. Mais donc maintenant que le jeu est sorti, donc on parle de février 2011 maintenant, donc le jeu est commercialisé depuis février 2011 sous sa forme réelle et sous sa forme virtuelle. Votre stratégie maintenant de communication, c'est quoi? C'est d'aller dans des salons ou de communiquer sur Internet?
Ça va être principalement de communiquer sur Internet et de créer autour du jeu un buzz, d'utiliser à la fois le jeu physique pour promouvoir le jeu Internet et utiliser le jeu Internet pour promouvoir le jeu physique. Aujourd'hui, on est en recherche de notoriété sur le produit, donc là, on est en train d'investir sur toute cette partie communication à travers à la fois de la communication online et de la communication offline.
Ça, c'était.
Notre cible, si vous voulez, notre cible, elle est quand même, c'est une cible grand public. Donc on va avoir une approche grand public très orientée sur la cible féminine parce que les premières statistiques du jeu ont très vite montré que c'était généralement les femmes qui gagnaient au Scrapple. Donc on est parti sur cet élément de positionnement de nous adresser à la population féminine à travers des médias online et offline.
D'accord. Et donc, si l'édition du jeu n'était pas votre métier de base, moi, quelque chose qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'on se lance dans justement l'édition d'un jeu, même en version électronique. Alors, en même temps, comment est-ce qu'on prend les contacts? Est-ce que vous attendiez à ce que ça représentait comme charge de travail?
Alors, moi, je viens du monde de l'informatique, hein, puisque j'avais déjà créé deux sociétés d'informatique. Donc, c'est un milieu, le milieu de l'informatique lui-même, je le connaissais parfaitement bien. Alors maintenant, par contre, ce que j'ai découvert, c'est la complexité de réaliser un jeu comme le Scrapoc. J'avais totalement sous-estimé, mais réellement sous-estimé, la charge de travail. Voilà, je me suis complètement planté par rapport aux estimations que j'avais fait initialement. Alors, je n'étais pas surpris d'une dérive informatique, puisque une dérive informatique, en fait, je crois qu'il n'y a aucun projet informatique qui se réalise dans des délais initiaux. Mais j'avais sous-estimé la complexité de réaliser un tel jeu.
C'est ça.
Voilà.
D'accord. Mais donc, justement, on peut avoir une idée du temps de développement de cette version online?
Bah écoutez, petit à petit, on était en gros 7 personnes, il y avait 7 informaticiens et on a mis presque 18 mois. Hein.
Ah oui, quand même.
Alors c'était pas des gens qui travaillaient à 100% de leur temps, puisque j'ai fait réaliser le jeu à travers des contrats d'auto-entrepreneurs, à travers des gens du milieu informatique que je connaissais bien, donc toute la partie analyse et tout, mais ça a été un travail extrêmement 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 lourd que j'avais. Il n'est pas certain que si j'avais su à l'époque la charge de travail que je me serais lancé dans la partie dans la partie jeu en ligne. Hein. Une fois que vous avez la main dedans, ma foi, il faut aller jusqu'au bout.
Alors, effectivement, donc parler de cet informaticien avec 18 mois de développement, quel est le taux de pénétration maintenant de cette application? Combien d'utilisateurs est-ce qu'on a? Quel est votre plan en fait d'agrandissement de ce genre d'activité?
Alors aujourd'hui, donc le site et le jeu sont en ligne depuis début février. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 160 inscrits au jeu, un peu plus de 150, donc 160 inscrits au jeu qui jouent au jeu. Il y a eu à peu près 2000 visites sur le site. Il y a 60 boîtes de jeux qui ont été vendues. Le jeu est principalement vendu aujourd'hui sur notre site web. Il est vendu dans quelques magasins spécialisés. Et l'idée derrière, ça va être de développer ce jeu-là dans un premier temps, sur la langue française, et puis très rapidement de lui donner une dimension européenne, puisque maintenant tout le gros du travail au niveau de la partie informatique est réalisé. Il nous reste à adapter la répartition des langues sur chacune des langues. Donc ça, c'est déjà disponible en anglais, en allemand actuellement sur le site web, et donc
Espagnol et italien également.
et aussi en italien, et puis on va partir sur une phase de communication très très forte sur la marque et le jeu Scrapoc.
Tout à fait. Et je vois sur le site justement que donc le site scrapoc.com, on a la possibilité évidemment de commander le jeu, mais alors de jouer en ligne. Jouer en ligne, c'est gratuit.
Alors on propose, oui, bien sûr, c'est gratuit. De télécharger l'application, c'est bien sûr complètement gratuit. On propose deux modes en fait. On propose un mode premium qui permet aux gens de jouer, de découvrir le jeu, de s'approprier bien les règles du jeu, de passer des moments conviviaux autour d'une table de Scrapoc. Et puis on propose aussi un mode concours où là on va faire appel plus à l'esprit joueur des hommes et des femmes, où là on va rentrer dans un esprit un peu de confrontation, où les gens vont pouvoir acheter une monnaie virtuelle et de cette monnaie virtuelle faire évoluer leur compte pour pouvoir derrière transformer cette monnaie virtuelle en différents lots qui sont disponibles sur le site web.
Oui, c'est ça. Donc là.
C'est un échange en fait, la monnaie virtuelle. Et donc, on n'est pas rentré dans le principe des jeux de poker, de jeux d'argent. Le côté comme c'est un jeu de paris, je dirais, le fait de parier même des sommes dérisoires, puisque les sommes sont dérisoires, hein, c'est du micro-paiement, permet d'avoir un côté adrénaline qui est plus important que simplement on mise n'importe quoi, on s'en fout, parce que quand on sort et qu'on revient, le compte est immédiatement recrédité. Et les gains que l'on a, en fait, on a une boutique en ligne et on peut échanger ces gains avec des voyages ou des bons ou même juste lui-même, voilà.
Oui, tout à fait. Alors, avant de rentrer dans la description du jeu lui-même, puisqu'on n'en a toujours pas parlé, pas au niveau de la mécanique, expliquez-moi d'où vient le mot XQB5.
Alors ça veut rien dire. Je cherchais quelque chose qui ne veut rien dire. Voilà.
D'accord.
La plupart des sociétés, on cherche des interprétations de ce que ça veut dire, ou c'est les contractions, de son épouse, de ses enfants, ou de je ne sais trop quoi. Là, véritablement, j'ai cherché un nom qui intriguait, mais qui voulait strictement rien dire. Voilà.
D'accord. Ok, au moins c'est clair, on ne cherche plus alors. C'est très bien. Comment est-ce qu'on met en place la partie? Comment est-ce qu'on démarre? Quels sont les tours?
Alors, les règles sont vraiment calquées un peu sur. C'est pour ça qu'on a mis le POC. Hein, c'est calqué sur les jeux de poker, sur la mécanique du poker. Autrement dit, au départ, chaque joueur reçoit 5 cartes privées. Donc, il reçoit 5 cartes privées. À partir de ces cartes-là, il va commencer à parier sur la possibilité de réalisation d'un mot. Après un premier tour d'enchères, le système dévoile trois autres cartes, mais cette fois-ci en tant que carte publique. Donc là aussi, les gens commencent à voir chercher une combinaison, carte privée, carte publique, commencent à parier sur la possibilité de réalisation d'un mot. Donc, de ce second tour d'enchères, un troisième tour d'enchères, donc on dévoile une quatrième carte privée. Donc ça fait, on se retrouve, et puis une cinquième. Donc on se retrouve avec la possibilité de créer un mot de 10 lettres. Voilà. Donc, et puis chacun essaye de composer le mot le plus long, mais non seulement le mot le plus long, mais avec le combinaison, en essayant de réunir le maximum de cartes de la même couleur et de la même enseigne. Voilà.
D'accord. Et donc, comme vous dites que c'est calqué sur le poker, c'est on se retrouve avec de la relance du.
Absolument,
Ouais.
c'est strictement identique. En fait, c'est vraiment basé, hein, sur le poker. Donc on se retrouve avec une mécanique de relance, de bluff, etc. Sauf qu'in fine, c'est celui qui a composé le plus beau mot. Donc bah, il n'y a pas de possibilité statistique et autres, parce que les combinaisons sont absolument énormes, hein, sont gigantesques. Donc il y a vraiment... Il y a vraiment le seul côté qui laisse au hasard, c'est qu'effectivement la distribution des cartes que l'on reçoit est au hasard. Mais ensuite, avec 10 cartes, généralement les gens ont la possibilité quand même de remuer leur ménage.
Tout à fait. Mais donc, si vous dites qu'il y a énormément de combinaisons disponibles et qu'il n'est pas facile de compter statistiquement l'apparition des cartes, ça veut dire que sur quelle base est-ce qu'on va bluffer? On va bluffer juste pour jouer, ou bien il y a quand même des moments où on est capable de bluffer avec quelque chose?
Ben, on bluffe, on peut toujours bluffer, puisque c'est un peu, par exemple, vous êtes au premier ou au deuxième tour d'enchère, vous mettez une grosse enchère, il n'est pas certain que quelqu'un va vous suivre, par exemple. La clé d'entrée, c'est toujours, si dans vos cartes privées, vous n'avez aucune voyelle, si jamais dans les cartes publiques, il n'y a aucune voyelle qui vient, vous n'avez pas beaucoup de chances de gagner, puisque vous serez incapable de faire un mot. Par contre, si vous avez plusieurs voyelles, bon, il est toujours possible de faire croire à l'autre que, on a en tête un mot absolument fabuleux.
C'est
Et
ça.
puis on va observer, si vous voulez, on va observer aussi le jeu des autres, c'est-à-dire que si pendant les 3 tours précédents, la même personne a gagné en ayant fait un mot de 7 lettres. À partir du moment où elle va miser, après on va craindre d'être, on va dire qu'elle est quelqu'un qui connaît toujours des mots, etc. Donc après, quand on est face à elle, on va miser de manière complètement différente. Donc c'est aussi dans la partie d'observation des autres, dans la manière dont jouent les autres, qu'on va pouvoir après créer notre propre bluff.
Donc si je comprends bien, vous avez transposé la caractéristique du poker pur qui est fondamentalement une approche assez mathématique et un décompte de probabilité vers justement une force culturelle et une force de création de mots sur base de lettres. Donc le stress est déplacé de la mathématique vers la création des mots.
Tout à fait. C'est plus en
Exactement.
regardant, en se disant, tiens, elle a l'air purée, elle s'y connaît vachement, elle doit passer sa vie à faire des mots croisés. C'est plus ce côté-là. Ceci étant, il est vrai qu'au Scrapoc, les gens bluffent moins. Hein. Nous, on s'est aperçu que le côté bluff était beaucoup moins courant qu'au Scrabble, puisqu'effectivement, on a éliminé totalement la partie statistique. Donc du coup, on a beaucoup rogné sur le bluff. Donc le bluff, c'est plus quelqu'un qui a fait deux fois de suite, qui a eu la chance de composer un mot, un très beau mot. Les autres commencent à le craindre. Ils vont plus craindre la culture, que, a priori, la distribution des cartes.
Oui, je comprends.
C'est plus une confrontation, cette fois-ci, humaine et culturelle.
Mais l'idée, c'était effectivement de reprendre la mécanique du poker, mais de la simplifier. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de small blind et de big blind. On a un seul niveau de mise, c'est toujours la même. L'idée, ça a été un peu de simplifier aussi ces éléments-là pour proposer aussi un jeu dont les règles sont simples.
Tout à fait. Bien. Donc là, on est en avril 2011. Le jeu a été lancé en février, on l'a dit tout à l'heure. Où est-ce qu'on va pouvoir vous croiser justement pour pouvoir tester le jeu avec vous?
Bah, sur le
Principalement sur www.scrapoc.com.
D'accord. Vous êtes souvent sur la version en ligne?
Ah oui.
Et vous êtes sous quel nom alors qu'on puisse vous reconnaître?
Alors, plusieurs noms. Koala 51,
Ouais.
Scrapoc 1. sont les principaux avatars.
Ouais.
Est-ce qu'on peut créer nos propres avatars, nos propres images? Donc ça, c'est un côté très sympa. Et on peut dialoguer avec les autres via le chat. Donc surtout, ce côté chat, pour le moment, on a une fenêtre du chat qui se remplit très vite parce que les gens parlent beaucoup sur le chat et ça apporte beaucoup de convivialité à la table de jeu. Donc faut surtout échanger sur ce chat, quoi.
Oui, tout à fait. Bien, et donc le jeu est en développement en mode online seulement pour l'international ou en mode carte aussi?
Pour le moment, au niveau au jeu physique, il est uniquement disponible en français.
C'est ça. Mais la volonté, c'est d'ouvrir la version
Ah oui,
online à
très vite, très
l'international.
vite, très vite, très vite d'aller sur d'autres marchés
Oui.
pour le développer sur d'autres marchés, d'autres langues en tout cas.
En fait, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Là, pour l'instant, ce n'est qu'un problème purement financier, hein. C'est-à-dire que on attend quand même d'avoir des retours pour pouvoir continuer à investir, puisque bon, il est tout à fait clair que pour l'instant, on a travaillé beaucoup en cash burning. C'est vraiment un financement de passionnés. Voilà. Mais tout est prêt au niveau. Dans la version online, on est prêt dans 5 langues à l'heure actuelle, puisque globalement la mécanique du jeu reste strictement la même. Ce qui change, c'est la disponibilité des, c'est la répartition des cartes. Autrement dit, en anglais, il y a moins de E, il y a plus de T, des choses comme ça. Et ensuite, c'est le dictionnaire de données, puisqu'une des grosses difficultés, bien entendu, puisque les mots sont contrôlés par le système. Donc vous avez en ligne, vous avez toujours en ligne un dictionnaire qui contrôle ce que vous faites, qui vous dit, voilà, que votre mot est accepté ou n'est pas accepté.
Oui, tout à fait. Ça veut dire que vous attendez d'avoir un certain niveau financier en retour avant de vous lancer dans d'autres choses.
Ben oui, absolument. Oui, on attend en fait qu'il y ait des rentrées d'argent pour continuer à développer le jeu. Oui. À l'heure actuelle, c'est purement ça, hein. Voilà. En fait, tout passe dans le jeu, donc.
Ouais. Mais donc, je dirais, en tant que société d'édition assez jeune ayant un jeu à son actif, votre volonté, c'est de continuer à développer ce jeu-là. Avec des variantes ou je ne sais pas ce que vous avez en tête, ou bien aussi de sortir d'autres jeux qui correspondent à vos envies.
Pour l'heure, c'est essentiellement de faire de ce jeu un jeu complètement international, d'une part. Et puis bon, on a d'autres choses qui sont d'ores et déjà en cours, puisque si on regarde bien, le jeu se passe très bien. Est très facilement adaptable dans quelque chose de télévisuel. Puisque si on regarde bien les jeux télé actuellement, les jeux de LED, d'abord il y en a très très peu. Je ne connais pas le marché en Belgique, mais en France il y en a un qui s'appelle le mot le plus long. À part ça, il n'y a vraiment pas de jeux de LED. Voilà. Donc on a des projets actuellement qui sont assez avancés et il est possible, voire probable, qu'un jour on retrouve également ceci sous forme d'un jeu télévisé.
C'est ça. Donc ça veut dire que là vous êtes en démarche avec une chaîne, pas des chaînes de télévision pour vendre une licence de jeu?
Voilà, c'est surtout des producteurs de télé. Oui,
C'est ça,
oui,
d'accord. Donc on va bientôt voir du scrapbook à la télé, c'est une bonne idée.
oui. On espère bien, oui, on espère bien, puisque c'est véritablement un jeu qui se prête à une présentation télé. Puisque si on regarde bien, il y a énormément, énormément de tournois de poker, mais qui ne connaît pas au poker, on regarde ça passivement. Alors que au scrapbook, si vous imaginez un équivalent dans une autre présentation, il y a une participation véritablement, puisque là vous avez le téléspectateur qui peut composer lui-même, puis qui peut chercher lui-même à composer des mots.
Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je vous remercie. Je pense que on a vraiment plus amplement fait connaissance avec vous et surtout on connaît mieux votre démarche. Donc je pense que il n'y a plus qu'à aller sur scrapbook.com et de tester le jeu, que ce soit en mode physique ou en mode online. Donc, Axel Desplanques, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et Moreno Raganien, un grand merci et bravo pour cette création. On vous suivra certainement.
Merci Nicolas.
On vous remercie
Merci beaucoup.
Et à très bientôt.
À
À
très
bientôt.
bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.